Salut à tous, ici Zeni. Déjà bonne année et on se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode du Poké Freak Show. Alors je crois qu'on a fait toutes les générations dans les 8 épisodes précédents. On a parlé de la première génération avec les Poutous, de la deuxième avec un seul Ourdo et Girafarig, de la troisième avec Morpheo, de la quatrième avec la famille de Shinity et la famille de Arkéomir, de la sixième avec Trousselin et de la septième avec Type Zero et Sylvalier. On s'est même permis un petit flash-forward avec l'épisode hors-série sur Meltan. On a été plutôt complet jusque-là, et c'est cool. Sauf que, en fait non, il nous manque tout de même une génération. Et pas n'importe laquelle, puisque celle dont on n'a jamais mentionné, est celle qui est considérée par beaucoup de fans comme la pire génération faite par Game Freak, autant pour les jeux en eux-mêmes que pour ses Pokémon proposés. Oui, vous l'avez peut-être compris, nous allons enfin entamer le gros dossier de la 5ème génération, celle des jeux noir et blanc. La pire génération pour certains donc. Et vous vous en doutez, en réalité, je partage pas du tout cet avis. Au contraire, je trouve que c'est plutôt la plus sous-estimée de toutes, tant elle enferme une grande richesse. Mais commençons au commencement. Sortis en 2011, les jeux Pokémon Noir et Blanc vont nous proposer d'explorer la région d'Unis, qui est en somme la toute première région à ne pas s'inspirer directement du Japon, puisqu'elle s'inspirait en réalité de la région de New York, aux États-Unis. Une grosse nouveauté qui fut accentuée par le fait qu'on ne pouvait pas obtenir de Pokémon des anciennes générations avant d'avoir atteint la Ligue. En bref, on ne pouvait jouer qu'avec les 156 nouveaux Pokémon introduits, ce qui donne à cette région un sentiment d'être séparée des autres. Cette idée était même relayée dans l'animé et franchement, c'était un pari plutôt risqué, mais assez intéressant en somme, bien qu'il ait rétropédalé ça dans la suite de ses jeux Pokémon Noir et Blanc. Bien qu'ils aient justifié ça en disant que la région s'est juste ouverte au monde. De plus, ils proposaient des mini-jeux, de nouvelles interactions avec le monde de Pokémon, ou d'autres features qui semblaient partir d'une bonne idée, mais qui finalement paraissaient trop lourds pour un jeu Pokémon, et qui sans doute a participé à la haine des joueurs envers cet opus, vu que leurs tutoriaux étaient longs et obligatoires. L'autre particularité était son scénario, qui est, à mon sens, l'un des plus riches de Pokémon. On avait droit à une grosse aventure, à des PNJ très intéressants, mais surtout à une thématique globale plutôt philosophique, à des années-lumière de la simple trinité Terre, Mer et Air de Hoenn, et je parle même pas du scénario de Kanto. Car à Unis, la dualité proposée était l'idéal, représenté par le dragon noir Zekrom, face à la réalité, concept que défendait le dragon blanc Reshiram. Lorsque nous commencions l'aventure dans ce nouveau monde, nous nous frottions rapidement à la team Plasma, et à sa principale figure aux cheveux verts, N. Celui-ci, en fonction de la version que nous avions choisie, nous expliquait qu'il a vécu sa vie à croire exclusivement soit à la réalité, soit en l'idéal, et donc qu'il croit uniquement à ce concept, ignorant ainsi l'autre. Puis, au fil de l'aventure, il découvre que l'autre concept existe et doit être considéré. Et à la fin, nous rencontrions les deux Pokémon dragons, Reshiram et Zekrom, deux Pokémon qui se feront la guerre jusqu'au bout. Mais on nous présente aussi un troisième Pokémon, Kyurem, le dragon gris. On nous laisse entendre plusieurs fois que Kyurem serait la fusion de Zekrom et Reshiram, mais en fait c'est faux. En réalité, Kyurem est le Pokémon frontière, celui qui se trouve entre la réalité et l'idéal, puisque les deux ne peuvent pas fusionner. Mais à la fois, on a besoin des deux qui sont complémentaires. Pokémon Noir 2 et Blanc 2 ira même plus loin avec deux versions de Kyurem, l'un Kyurem blanc et l'autre Kyurem noir, donc l'un étant la réalité mais pas trop, et l'autre étant l'idéal mais pas trop, pour encore plus d'interrogations philosophiques. Pokémon Noir et Blanc, grâce à ce groupe de Pokémon formant le Ying et le Yang, proposait un sens philosophique à son jeu. La réalité contre l'idéal donc, un concept qui aurait bien été utilisé dans l'histoire des États-Unis à l'époque où on idéalisait ce pays lors de l'immigration des Européens au début du siècle. Des migrants qui ont vite fait face à la réalité en arrivant sur le Nouveau Monde. En réalité, cette dualité fait complètement partie de l'histoire des États-Unis et dans un sens, Trump pourrait même être l'incarnation de cette dualité en plus d'être un manglouton à petites mains. En tout cas pour les Japonais qui idéalisent beaucoup l'Occident, ce pays est une belle réincarnation de ce paradoxe. Mais revenons à Unis. Donc Reshiram, le dragon blanc, est la réalité, tandis que Zekrom, le dragon noir, est l'idéal donc. Mais c'est tout? Est-ce que c'est les seuls qui parlent de ce concept si central dans le jeu? Bien sûr, si je vous pose la question, c'est que ce n'est pas le cas. En fait, que ce soit le vestige du rêve, Union Police, la forêt blanche, la ville noire, etc., etc., mais aussi le Pokéwood, qui va jusqu'à introduire le cinéma dans le monde de Pokémon, cette thématique est bel et bien récurrente dans notre aventure. Qu'est-ce que la réalité, les choses qu'on doit faire face et les conséquences qu'on est obligé de subir? Et qu'est-ce que l'idéal, l'imaginaire, les choses issues de nos fantasmes et de nos désirs, mais qui ont peu de chances de se réaliser? Pokémon Noir et Blanc, à travers toutes ces étapes dans l'aventure, nous propose de s'interroger là-dessus. Et qu'en est-il des Pokémon en eux-mêmes? Alors bien sûr, tout ne s'apparente pas à ce concept. Par exemple, les trois starters n'ont rien à voir. Enfin, a priori. Mais à côté de ça, on en a d'autres qui rentrent complètement dedans et qui ont une certaine dualité avec d'autres Pokémon. C'est le cas par exemple de la famille de Scrutella, exclusif à Pokémon Noir, et de par sa parure de sorcière pourrait représenter l'idéal, qui est opposée à la famille de Nucleos, exclusif à Pokémon Blanc, et qui est une grosse cellule, donc représentant la réalité. Et que dire de Muna et Mushana, les deux Pokémon des rêves? Vous l'aurez compris, on retrouve ces deux concepts un peu partout, et je pourrais faire une longue liste de toutes ces allusions. Par exemple, je pourrais vous parler également de la dualité entre Chlorobulle et Doudouvé, mais ça, peut-être que j'en parlerai sur Twitter plus tard. Mais dans tous les cas, nous n'allons pas aller plus loin parce que sinon la vidéo serait trop longue et sans doute peu intéressante. Donc passons tout de suite au final de cette liste, soit les deux familles de Pokémon qui représentent le mieux la réalité et l'idéal dans ces deux versions. Et ça tombe plutôt bien pour l'émission parce que ce sont des Pokémon très peu appréciés par le public. Qui sont donc ces deux Pokémon ? Ce que je vous propose, c'est donc de d'abord parler du Pokémon qui représente à mes yeux le mieux le concept d'idéal, puis je vous parlerai au prochain épisode de celui qui représente le mieux le concept de réalité. Et donc, commençons. Qui est donc ce fameux Pokémon qui représente le concept de fantasme ? Eh bien ce Pokémon, en plus de tout ce qu'on a dit, on pourrait aussi l'apparenter à une autre thématique présente dans le monde de Pokémon depuis la première génération, à savoir les Pokémon extraterrestres. La plupart d'entre vous auront direct la tête de Melofé et Melodef de la première génération, Pokémon arrivés depuis la Lune dans le mont Sénélite, accompagnés de Pierre Lune, tandis que d'autres penseront à l'entité extraterrestre légendaire de la troisième génération, Deoxys. On pourrait également citer Solarock et Celerock qui sont les Pokémon roches venant de la météorite. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler de deux autres Pokémon fortement réputés pour leur lien avec l'espace. En fait, chaque parcelle de leur anatomie, quel que soit le sens dans lequel on les regarde, en font fortement référence, ce qui fait que c'est même un jeu de retrouver tous ces détails. On va donc parler de deux Pokémon issus de la 5ème génération, mais peut-être que même les fans de cette génération les auront oubliés. Car aujourd'hui, nous allons parler des Pokémon numéro 605 et 606, Léosor et son évolution, Nettram. Décrivons individuellement ces deux Pokémon de type Psy en commençant par Léosor, Pokémon d'apparence bipède de 50 cm pour 9 petits kilos. Apparu donc pour la première fois dans la région du Nice, il était trouvable autour du niveau 30 uniquement dans la Tour des Cieux, entre Parsemy et le Mont Forêt. Un lieu plutôt adéquat pour placer des Pokémon de type Psy puisque c'était un cimetière. Physiquement, Léosor ressemble à un petit robot bleu-gris avec une tête disproportionnée et des diodes partout. Alors déjà, d'aucuns dira qu'il rappelle beaucoup Marvin, le robot dépressif du célèbre livre humoristique britannique Le Guide du Voyageur Galactique de Douglas Adams, un livre qui parle d'extraterrestres, mais nous parlerons de cette affiliation plus tard. Tout comme son évolution, Léosor a accès à trois talents, Télépathe, un talent utile en combat double qui lui permet d'être insensible aux attaques de ses alliés, Synchro qui lui permet de partager ses altérations de statut avec son adversaire, par exemple s'il est paralysé son adversaire l'est aussi, et enfin Analyste, un talent plutôt très cool qui lui permet d'augmenter son attaque de 30% s'il attaque en dernier dans un tour. Bref, des talents plutôt sympas qu'il partage aussi avec beaucoup d'autres Pokémon de type Psy. Enfin, le Pokédex dit que Léosor peut déclencher des migraines chez ses adversaires, mais aussi qu'il serait apparu mystérieusement il y a 50 ans où un ovni se serait écrasé. Et donc, notre petit robot évolue au niveau 42, et je dis bien au niveau 42, en Nettram, Pokémon numéro 606. Nettram est plus grand que sa pré-évolution, est passé du bleu-gris au beige, et sa tête a pris une forme de cloche. Par contre, il garde toujours ses diodes au bout de ses doigts, et on le retrouve à l'état sauvage à un seul endroit dans tous les jeux depuis Noir et Blanc, dans la route 14, une route remplie de brouillard. Une route mystérieuse donc. Au niveau des combats, Nettram a de très gros avantages. Déjà, le talent analyste est un atout évident, mais aussi son accès à des attaques comme machination, rayon signal ou distorsion. Et surtout, Nettram a une excellente attaque spéciale. Bon, les grosses attaques spéciales sont assez courantes chez les types Psy, mais c'est bien de le noter. Bon, malgré tout, il est dans les pires tierces, et c'est lié déjà à ses autres stats très basses, mais aussi au fait qu'il est de type Psy uniquement. Et je vous ai assez répété le fait que le type Psy était pas ouf, mais on peut trouver nettement mieux dans le même registre, genre méga Alakazam pour ne citer que le meilleur. Concernant le Pokédex, on nous dit déjà que Nettram peut manipuler les souvenirs de ses ennemis et communiquer avec ses doigts, et qu'il parle un langage mystérieux. Ça rappelle un peu la description de Liputu, mais c'est pas une excuse pour imaginer qu'il est aussi affilié à l'opéra. Mais enfin, après, on va pas non plus jouer à deviner concrètement ses origines, puisque je vous l'ai déjà assez répété, et même ça paraît de plus en plus évident, Léosor et Nettram sont clairement inspirés des extraterrestres. Et plus précisément des extraterrestres dans la culture populaire. Léosor, comme je l'ai dit, ressemble à un personnage du Guide du Voyageur Galactique et surtout évolue au niveau 42, 42 étant, pour les 3 personnes qui ne le savent toujours pas malgré la surabondance de références à ce chiffre genre partout et ces genres gavants, arrêtez s'il vous plaît, on n'en peut plus, vous dénaturez complètement son sens, un chiffre dont le livre de Douglas Adams dit qu'il serait la réponse à la grande question de la vie, l'univers et le reste. De plus, le nom français de Léosor, si on inverse les lettres, donne Roswell, et Roswell fait référence à l'une des plus célèbres et les plus crédibles manifestations supposées d'extraterrestres. En gros, Roswell est une ville dans le Nouveau-Mexique, le fameux désert dont parle le Pokédex, j'imagine, où en 1947, un objet volant se serait écrasé. Officiellement, il s'agirait en réalité d'un ballon sonde issu d'un projet ultra-secret américain de surveillance de l'URSS, mais plusieurs éléments suspects iraient plutôt vers l'écrasement d'un ovni, soit d'un objet volant non identifié. Mais dans tous les cas, depuis 1947, plusieurs personnes sont revenues sur leurs propos, que ce soit du côté des complotistes comme des autorités, donc c'est assez flou. Mais je pense que si je parle de Roswell, certains auront surtout l'image du petit extraterrestre sur un bloc opératoire, en train de se faire examiner. Il s'agit là d'une vidéo datant de 1993 qui se vendait comme des images d'archives top secret d'une autopsie d'un individu, venu d'ailleurs, qui n'aurait pas survécu à son crash. Cette vidéo s'est répandue sur toutes les chaînes mondiales durant les années 90, mais là par contre, rassurez-vous, il a bien été affirmé que c'était un fake. Ceci dit, l'essor, pour en revenir à lui, emprunte beaucoup du design de cet alien. Et pour cause, il s'agit d'un archétype d'alien qu'on appelle Petit Gris, qui est grosso modo la figure extraterrestre la plus répandue au monde. Vous savez, des espèces d'humanoïdes gris avec d'énormes yeux noirs, genre ceux qu'on voit dans South Park. Le Petit Gris est l'image la plus répandue des individus de l'espace, et certains diront que c'est parce que ce sont les plus vus dans le monde. En effet, de toutes les rencontres supposées dans le monde entier, près de la moitié impliquaient ce genre d'archétype, dont 90% des témoignages rien qu'au Canada. Si les témoignages s'accordent tous sur cette apparence, c'est bien la preuve qu'il domine bien notre monde à notre insu et qu'un premier contact a bien été fait, non ? Eh bien non, pas du tout. En fait, la première mention de cet archétype date de 1901 et vient d'un roman d'H.G. Wells, Les premiers hommes dans la Lune. Dans ce roman, les personnages font face à un peuple appelé les Sélénites, des êtres vivants à l'intérieur de la Lune, et qui sont décrits comme, ouvrez les guillemets, des êtres de petite taille à la peau grise, avec un grand front, sans nez, avec des yeux protubérants et une démarche étrange. Et jusqu'au milieu du XXe siècle, cette image de l'extraterrestre appartenait surtout à la fiction avant d'être récupérée par les théories complotistes. Donc autant vous dire que si quelqu'un vous assure avoir vu un extraterrestre ressemblant à ça, soit c'est un charlatan, soit c'est une personne sincère qui a cru voir quelque chose que son subconscient a construit de toutes pièces. Et dans tous les cas, ça sera faux. D'autant qu'il est totalement improbable que les extraterrestres finissent par ressembler autant aux humains, mais ça c'est une autre histoire. Un autre archétype bien connu des extraterrestres est celui du petit homme vert, des créatures vertes de petite taille portant souvent des antennes, soit exactement comme dans Toy Story. C'est même devenu le terme synonyme des extraterrestres, si bien qu'il est utilisé même quand les témoignages parlent d'un archétype différent. Mais par exemple, et pour revenir à l'essor, son nom anglais LGM est la prononciation anglophone de LGM, soit l'acronyme de Little Green Man. D'autres références se sont glissées dans l'essor. Déjà, d'après le Pokédex, il peut compresser les cerveaux, pouvoir qu'on associe souvent aux extraterrestres. Ses doigts en forme de diode font beaucoup penser au film de 1953, La Guerre des Mondes. Les deux cercles creusés dans son crâne font sans doute référence au crop circle qu'on peut trouver partout en Europe. Et les lignes sur son front pourraient rappeler les lignes de Nazca qui, selon certaines théories complotistes, auraient été tracées pour pouvoir communiquer avec les extraterrestres. En bref, il est clair que l'essor est un énorme mélange de toutes les images qu'on a des aliens, avec le plus d'éléments sur lui possible, pour bien faire comprendre que c'est un Pokémon extraterrestre. Qu'en est-il de Netram maintenant ? Alors Netram, c'est plus compliqué. Même si son nom à lui donne martien à l'envers, il ne ressemble plus du tout au Petit Gris ni à aucun archétype d'extraterrestre célèbre, même s'il garde des diodes, des lignes sur son front et les cercles creusés dans son crâne de sa pré-évolution. Pourtant cette fois il est beige, son crâne est plus allongé et semble porter une robe. En fait Netram s'inspire directement d'une célèbre apparition du troisième type, à savoir le monstre de Flatwood. Qu'est-ce que le monstre de Flatwood ? Laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes donc le 12 septembre 1952, dans la petite ville de Flatwood. Ce jour-là, un petit groupe de jeunes interrompirent leur partie de foot, car ils auraient vu une chose atterrir au sommet d'une colline. Ils décidèrent alors d'y grimper et de voir ce qui s'y trouvait. Tout en haut, ils virent un engin brillant écrasé au sol. Cet engin faisait plus de 10 mètres de long, mais ce n'est pas la seule chose qu'ils remarquèrent, puisque juste à côté et sortant de la pénombre, se trouvait une créature. Une chose d'apparence robotique, qui flottait sur le sol, une tête en as de pique, un long vêtement l'entourant, des doigts griffus et des yeux rouges perçants. La créature s'avançait vers les enfants et ces derniers s'enfuirent. Peu de temps après, le shérif vint et en l'absence de cette créature et de son vaisseau, il a été décidé que l'hypothèse d'un ovni devait être écartée. Mais elle reste néanmoins l'une des histoires les plus célèbres d'extraterrestres aux États-Unis. Donc voilà à qui Netram emprunte l'apparence, à cette fameuse créature robotique issue de l'une des histoires d'extraterrestres les plus crédibles, ou en tout cas les moins pires. Mais pas que. Comme je l'ai dit, Netram ne peut être vu que dans les herbes de la route 14 de Unis, une route bien brumeuse, comme dans la légende citée. Et puis surtout, la ville de Flatwood est dans l'état de Virginie, au nord-est des États-Unis. Et de quelle région s'inspire Unis ? De New York. Mais on n'est pas loin du tout. En fait, et vous vous doutez que nous allons réutiliser le principal trope de l'émission, Je soupçonne Game Freak d'avoir voulu carrément nous faire comprendre que le monstre de Flatwoods était un Pokémon qui n'apparaît que dans cette région. Nettram correspond très bien à cette description, à quelques détails près. En effet, Nettram possède trois caractéristiques qui le font sortir de la légende. Déjà, son nom anglais BEM est, comme pour les sorts, la prononciation d'un acronyme. Cette fois, il s'agit de BEM, un autre archétype d'extraterrestre, cette fois bien plus emprunté par la pop culture que par les légendes. Grosso modo, il s'agit des gros machins bien grotesques, parfois insectoïdes, avec des yeux et des tentacules partout. Oui, comme Kang et Kodos dans Les Simpsons, ou les créatures de Starship Troopers. Ensuite, dans les Pokédex, il y a deux idées qui ressortent principalement. Déjà, on nous dit qu'il peut facilement manipuler l'esprit des autres et effacer des souvenirs. Bon, ce pouvoir rappelle beaucoup de choses, mais personnellement, je pense au Neuralizer, le fameux appareil qui permet d'effacer les mémoires dans la série de comics et de films Men in Black, une saga qui se base sur l'arrivée des aliens sur Terre. Et l'autre caractéristique mise en avant de le Pokédex est le fait qu'il fait clignoter ses doigts pour pouvoir communiquer. Et là, il n'y a aucun doute possible, il s'agit bien évidemment d'une grosse référence au film E.T. de Steven Spielberg. Enfin, sa couleur beige. Le monstre de Flatwoods est présenté comme une créature aux couleurs noires ou vertes et rouges, mais pas beige. Donc cette couleur vient forcément d'ailleurs. Là par contre, je n'ai pas trouvé de source sûre, même si ça me fait énormément penser à des extraterrestres vintage, un peu steampunk dans plusieurs séries ou films. On en a souvent eu dans des vieux nanars, mais l'exemple principal reste l'un des premiers Daleks dans Doctor Who. Bref, je crois qu'on a fait le tour de toutes les références que présentent Leosor et Nettram. Clairement, il ne fait aucun doute que Game Freak a essayé de bien nous faire comprendre par tous les moyens qu'il s'agit d'extraterrestres. Mais s'agit-il vraiment d'extraterrestres ? Revenons à la liste des Pokémon extraterrestres que j'ai fait au début de l'épisode, et comparons-les avec deux attributs des autres Pokémon qu'on appellera terrestres, à savoir leur capacité d'évolution et le fait qu'ils puissent se reproduire entre eux. Donc dans la liste que je vous ai fait, à part les Sun et Nettram, trois autres familles de Pokémon sont considérées comme extraterrestres. Bon, on passe vite fait Deoxys, qu'on combat dans l'espace et qui est officiellement une entité extraterrestre, là il n'y a zéro doute possible. Et puis son statut de légendaire lui permet de ne pas être associé aux Pokémon terrestres, de par le fait qu'il n'évolue pas non plus et qu'il change de forme à sa manière, et de toute façon il peut pas se reproduire avec d'autres Pokémon. Donc ça c'est bon. Ensuite, Solarok et Celerock. Eux, ils viennent de météorites, ce sont des roches célestes, et qui plus est des roches de notre système solaire. Ils n'évoluent pas, donc ne fonctionnent sans doute pas de la même manière que les Pokémon terrestres de ce côté, mais en revanche, ils peuvent se reproduire avec des Pokémon terrestres. Mais dans la mesure où son groupe d'œufs c'est minéral et qu'il est tout à fait possible de fusionner une roche céleste à une roche terrestre, plus compliqué certes, mais possible, le fait que ces Pokémon puissent se reproduire avec des Pokémon ne venant pas de l'espace est cohérent. Enfin, concernant Mélofée, Mélo évolue en Mélofée et Mélofée évolue en Mélodelphe certes, mais via des méthodes atypiques. L'un évolue par le bonheur et l'autre grâce à une pierre lune, ce qui est cohérent puisque Mélofée viendrait de la lune. Il peut se reproduire avec des Pokémon terrestres, mais on va lui accorder le bénéfice du doute, puisque là la lune n'est pas non plus super loin, et il est possible que des Pokémon aient muté avec le temps grâce aux pierres lunes, permettant à Mélofée de s'adapter plus facilement à notre environnement. Donc on va accepter que Mélofée soit bel et bien un Pokémon extraterrestre. Et puis bon, on voit aussi son vaisseau spatial dans l'épisode 62 quoi. Bref, il ne fait aucun doute que Deoxys, Solarok, Celerock et la famille Mélofée soient effectivement des Pokémon venus d'ailleurs. Non pas parce que le Pokédex le laisse supposer, mais parce que leur gameplay même, la manière de les rencontrer et leur background supprime tout doute possible. Quid de Leosor et Nettram donc ? Et bien là par contre le doute est tout de même bien plus permis parce que si on supprime toutes les références citées précédemment, qu'est-ce qu'on a ? Deux Pokémon de type Psy qui, d'après le Pokédex, seraient apparus il n'y a pas longtemps, mais à côté de ça évoluent normalement, se reproduisent normalement, et finalement réagissent comme n'importe quel autre Pokémon. Déjà qu'un individu bipède venant d'ailleurs, c'est peu probable, mais un individu bipède dont le concept de monter en niveau pour évoluer soit le même que sur Terre, et surtout qui a le même système de reproduction que Machoke ou Kadabra, quand même. Là où je veux en venir, c'est qu'il est peu probable qu'un individu venant de l'espace lointain et le même mécanisme qu'à n'importe quel autre Pokémon. D'après le principe d'évolution purement darwinien, s'ils possèdent les mêmes attributs que d'autres Pokémon terrestres, c'est qu'ils ont un ancêtre commun. Donc soit tous les Pokémon viennent d'ailleurs, soit les Sor et Nettram sont bien terrestres. Et dans la mesure où on les a découverts il y a 50 ans, ben on se pencherait plus sur la seconde supposition. Au passage, le fait qu'il y ait été découvert il y a 50 ans, apparition d'un ovni ou pas, n'est pas non plus une preuve, puisque la famille de Cliticlic a exactement la même description, et lui, il a été acté que c'était un Pokémon artificiel. Où je veux en venir dans tout ça ? Eh bien c'est que on nous dit que Leosor et Nettram sont des Pokémon aliens, et on insiste genre énormément dessus, mais et si plutôt c'était les Pokémon théorie du complot ? Là tout de suite ça fait plus sens. On sait pas d'où ils viennent, si ça se trouve ils sont bien terrestres et finalement ce serait la réponse la plus logique. Imaginez des Pokémon qui auraient été créés artificiellement dans le plus grand secret. Mais de par leur physique et leur description, on pourrait croire qu'ils pourraient venir d'ailleurs. Et puis ils font référence à beaucoup de théories de ce genre, les crop circles, Roswell, Flatsuit, etc. D'ailleurs, on peut aussi noter que si les sorts font plutôt référence à des notions vagues d'aliens, que ce soit sa forme de petits gris ou de traces qui font référence aux rencontres du premier type, Netram, lui, est composé de concrets, d'histoires plus précises, et surtout de références audiovisuelles. Donc finalement, cette évolution au niveau du sens de la vie, ce serait pas celle d'une théorie qui part dans tous les sens en se basant sur des trucs vagues, vers une réappropriation culturelle pour les œuvres de la science-fiction et vers du concret? Bref, je trouve que tout ceci fait sens, et honnêtement, je trouve que ça donne une dimension royale à nos deux petites têtes. Maintenant, réfléchissons à un truc. Pourquoi ils sont là, en fait? Pourquoi avoir fait un Pokémon théorie du complot? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début de l'épisode? La cinquième génération est celle de la dualité entre l'idéal et la réalité. Eh bien, avec toutes ces caractéristiques, on peut valider que Netram est le Pokémon qui représente le mieux cette première face. En effet, la croyance des extraterrestres et les théories du complot, c'est quelque chose qui rassure. Les croyances extraterrestres et ce genre de théories sont nées dans les années 50 aux États-Unis. Déjà, ça explique pourquoi un Pokémon avec une telle thématique est apparu dans cette région si spécifiquement, mais cette croyance, car oui, les aliens, c'est une croyance, répond à une question essentielle. Sommes-nous seuls dans cet immense infini céleste? Et c'est bien plus facile de penser qu'ils existent bien sous nos yeux que de réaliser qu'on n'aura certainement pas la réponse à cette question de notre vivant. Regardez l'affaire Roswell, les gens y croyaient car ils voulaient y croire. Et ceux qui ont tourné cette fausse autopsie ne faisaient que répondre à une attente. La science-fiction a toujours fait rêver et rend les questionnements plus faciles. Et en règle générale, toutes les apparitions paranormales sont là pour répondre à des questions. Par exemple, les fantômes, ben, c'est pour avoir des suppositions sur l'après-vie. Et puis c'est stimulant de faire face à une chose qui nous semble paranormale, alors que 9 fois sur 10, il y a une explication logique. Surtout si nous en sommes témoins directement. Sommes-nous à l'aube de quelque chose de plus grand? Est-ce que ceci explique d'autres choses? Et dans tous les cas, avec cet aspect flou que nous proposent nos deux petits faux extraterrestres, les sorts et Netram sont les Pokémon du fantasme, et c'est pour ça qu'on les aime. Merci d'avoir suivi cet épisode. Donc ici, nous avons vu le Pokémon qui incarne le mieux l'idéal dans son sens le plus imaginaire et anti-réalité. En effet, comme je l'ai dit, la croyance en les extraterrestres révèle avant tout du fantasme, donc c'était clairement le candidat parfait pour ce titre. Et à l'inverse, qui est le Pokémon de la réalité, celui qui incarne mieux notre existence directe et tous ses enjeux, tout en effaçant toute idée de fantasme? Eh bien, vous aurez son nom comme d'habitude dans 15 jours, dans le 10e épisode du Poké Freak Show. Et ça tombe plutôt bien parce que ça veut dire que pour le 10e épisode, je vous parlerai du Pokémon qui est peut-être considéré par beaucoup comme le pire Pokémon de tous les temps. Le Poké Freak Show est une production de Radio Kawa et n'oubliez pas de soutenir le réseau d'une manière ou d'une autre. Si l'émission vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre application de podcast favori, mettre 5 étoiles sur iTunes et me laisser un petit commentaire pour améliorer l'émission. À dans 15 jours, ciao!
On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin?
C'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Wink. Générique et soundtrack d'anime, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
Puis on n'avait pas de doujin hentai ni zekai non plus.
Mais arrête, Pépé.